Bonjour. Supprimer la prise en charge des enseignants par les parents. Augmenter nos salaires. Offrez-nous des meilleures conditions de travail. C'est ce que demande le syndicat des enseignants catholiques au gouvernement. Intervenant hier sur nos antennes, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a donné la réponse du gouvernement. Un enseignant toucherait au minimum 50 dollars américains en fonction du budget 2005. Seulement, le Parlement doit l'adopter. Vous avez été nombreux à réagir hier. D'autres messages sont arrivés. Au Capi Action continue l'échange sur la question. À Kisangani, la commune de Kabondo était, il y a quelques années, un centre de commerce important. Voici 3 ans que le transformateur de la cabine électrique qui dessert cette commune est tombé en panne. Du coup, les activités commerciales ont sensiblement diminué. La MONUC a fait don d'un transformateur, toujours pas d'électricité et pour cause, les câbles à haute tension sont très vieux. Soigner correctement la bouche, c'est indispensable pour prévenir les maladies des dents et des gencives. Mais que faire lorsque ces maladies surviennent? À Kinshasa, comme dans d'autres coins du pays, beaucoup de patients, pour diverses raisons, se font soigner par des méthodes traditionnelles. Mais bien souvent, les résultats sont loin d'être satisfaisants. Que faut-il faire? Lorsqu'on a des maux des dents, nous recevrons un chirurgien dentiste dans ce magazine. Voilà, c'est autour de ça que nous allons parcourir une partie des réalités de la vie comme ça se déroule en République démocratique du Congo.
Okapi, Okapi à Kinshasa sur 103.5 FM.
Donc voilà, la suppression de la prise en charge des enseignants par le parent peut paraître complexe pour certains de nos auditeurs. On se demande ce qui se passe exactement pour que le gouvernement ait abandonné sa tâche aux parents. Ça fait une dizaine d'années que les parents prennent en charge les enseignants pour l'éducation des enfants, dès lors que l'on sait, et le gouvernement l'a souvent dit, au moins au niveau des discours, que l'enseignement primaire et secondaire doit être obligatoire et gratuit, juste au niveau des discours, dans les faits, cela n'est resté qu'un vœu pieux. Alors, pour faire d'abord le point, un contour de la question, c'est avec vous, Dona Madimba, que nous continuons à traiter de la question. D'abord, bonjour.
Bonjour, Alter.
Rappel donc du problème, cette suppression n'est pas comprise par la plupart des auditeurs. Il faut supprimer la prise en charge des enseignants par les parents. Est-ce que vous pouvez nous repréciser le contexte réel du problème qui se pose?
Le problème est celui que vous avez évoqué il y a encore quelques minutes en introduction, celui de la suppression de la prise en charge des enseignants par les parents. Ce n'est pas que les enseignants vont manger ou vont dormir chez les parents des enfants qu'ils enseignent, mais leur salaire vient des frais que les parents payent comme minerval, comme frais d'études. Le problème commence en 1992, lorsque devant une année blanche des gens consommés une année auparavant, c'est-à-dire en 1991 donc, les évêques catholiques appellent les parents à financer les études de leurs enfants en payant un peu plus selon les écoles pour motiver les enseignants à donner cours. Eux, qui pour la plupart, les enseignants, ne recevaient plus leur salaire du tout. Les parents à l'époque appellent les évêques, les parents à l'époque, bien sûr, à l'appel des évêques, répondent favorablement et commencent alors un système de soutien à l'enseignement, un système qui va concerner aussi bien l'enseignement supérieur que l'enseignement secondaire, primaire. Et le système sera appelé de diverses manières. Voilà, partenariat, oui, prise en charge des parents ou encore motivation. Oui. Mais le système va vivre et donnera des effets qui, selon les enseignants, ne sont plus des choses tolérables. Et en janvier 2004, les concernés, les enseignants, écrivent au ministère et demandent la suppression de ce système. On va peut-être se poser la question, quels étaient les problèmes? On va retenir en grande partie le problème comment on peut dire ça, l'autorité des enseignants sur les enfants avait commencé peu à peu à diminuer.
Et le ministre
l'a rappelé hier. Donc, vous tenez comme anecdote, par exemple, un enseignant pour remotiver l'enfant ou pour lui donner une certaine discipline à l'école, lui donne une punition, par exemple, n'importe laquelle, hein, légère ou grande, selon, et l'enfant n'obéit pas. Et l'enfant répond tout simplement, c'est mon père. Qui paye, qui finance mes études, c'est mon père qui vous paye, donc je n'ai pas à t'obéir. Et au niveau...
Ça c'est inacceptable,
C'est inacceptable. Dans aucune école du monde, celui qui est appelé à recevoir des enseignements ne peut répondre ainsi à son maître. Voilà. Et aussi, comme autre problème, il y a par exemple le problème de la complaisance au niveau de la correction. Des textes des enfants.
La
cote à donner aux enfants commençait à devenir un peu complaisante. Donc, petit à petit, les enseignants se sont sentis un peu mal à l'aise et ont demandé au gouvernement de supprimer le système. Le gouvernement, après hésitation, accepte et promet de financer le salaire des enseignants avec le budget 2005. Belle réponse, mais qui jusqu'ici ne semble pas apaisée les enseignants,
mais oui, ni encore les parents. Voilà, et le ministre hier a dit qu'au minimum, un enseignant toucherait 50 dollars en fonction du budget 2005. Il espérait que, puisque le gouvernement l'a conclu ainsi, il reste au Parlement de l'adopter. Il espère que le Parlement releverait un tant soit peu la fourchette. Mais les auditeurs déjà ont réagi hier en disant qu'avec 50 dollars, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut vivre. Et il y en a qui ont rétorqué même au ministre, vous-même, est-ce qu'avec 50 dollars, vous sauriez vivre et scolariser vos enfants? Ça, c'est les auditeurs qui ont réagi hier. Et au niveau des enseignants, par rapport à cette évolution de la situation, que répondent-ils?
Les enseignants, craignant aussi que le gouvernement ne traîne les pas, n'applique pas tout de suite le financement de leur salaire, annonce déjà l'arrêt du travail si rien n'est fait d'ici la fin du mois, en fait tout au plus tard à la fin du mois de janvier.
Et du côté des parents, Donna, quelle est la réponse?
Les parents, un peu comme les enseignants, applaudissent l'initiative du gouvernement, mais craignent pour leurs enfants. Ils craignent que le salaire des enseignants ne soit pas régulièrement garanti et les démotive donc, ou tout simplement les pousse régulièrement à la grève, ce qui va handicaper beaucoup l'étude de leurs enfants.
Nous avons en direct dans ce studio avec nous Monsieur Jean Bosco Puna. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du syndicat des enseignants catholiques. Est-ce que nous avons bien résumé vos revendications?
Oui, je pense que en partie ce qui a été dit est vrai. Mais nous pouvons peut-être ajouter quelques points, notamment lorsque nous parlons aujourd'hui de la prise en charge des enseignants par les parents et que les enseignants aujourd'hui souhaitent que ce système puisse disparaître de notre système éducatif, eh bien c'est pour des raisons profondes. Notamment, vous devrez comprendre que le législateur a prévu qu'il y ait des avantages accordés aux enseignants en cours de carrière et des avantages après la carrière. Et vous devrez comprendre que les deux points ne sont jamais réunis. C'est-à-dire en clair quoi, aujourd'hui nous avons un système qui est âgé de plus de 10 ans, donc il faut compter 13 ans déjà, mais vous devrez comprendre que l'enseignant ne bénéficie de rien. Donc il y a une insécurité socio-professionnelle permanente qui pousse aujourd'hui les enseignants à se souvenir qu'ils n'ont pas des frais médicaux, qui n'ont pas de soins de santé, qui n'ont pas de frais de logement, qui n'ont pas de frais funéraires. Pourtant, tous ces avantages sont prévus au niveau des statuts du personnel des carrières des services publics de l'État. Donc vous comprenez en clair que si nous devons continuer avec le système, non seulement parce qu'en aval nous parlerons des conséquences qu'occasionne ce système sur l'enfant que nous sommes appelés à former, et vous allez comprendre qu'au niveau de l'enseignant lui-même, eh bien c'est quelqu'un qui vit dans une insécurité permanente. Et vous comprenez aujourd'hui quand un enseignant quitte cette terre des hommes, eh bien, il meurt comme il a vécu, dans la pauvreté la plus noire. Mmh. Et je pense qu'on aura le temps de pouvoir réagir aux propos de son Excellence, le ministre de l'EPSP.
Vous l'avez suivi hier, vous avez suivi son intervention
tout
hier.
Tout à fait, les enseignants ont suivi, et je dois vous dire que c'est une véritable agression que le ministre fait au corps enseignant. Parce que comment vous pouvez comprendre que le ministre des tutelles, qui a le souci de pouvoir protéger les enseignants, puisse déclarer sur vos antennes que 50 dollars suffiraient pour les enseignants. Pourtant, vous savez vous-même que le travail de l'enseignant, c'est un travail très délicat. Et donc, si l'enseignant n'est pas dans les conditions optimales de travail, nous ne pouvons pas attendre un rendement, à moins que le gouvernement nous dise aujourd'hui que l'enseignement, pour lui, c'est le cadet de ses soucis.
Il y a sur cette question de 50 dollars minimum, c'est nous qui lui avons posé la question, parce que il a donné un grand chiffre, en termes des milliards, oui. En francs congolais. Et moi, c'est moi qui lui posais la question, je voulais savoir, oui. Au minimum, un enseignant toucherait combien? Et il a lancé le mot de 50 dollars. Alors, on se posait la question, est-ce que c'est par rapport à Moody ou c'est en attendant Moody? Il a dit que c'était en attendant que la commission Moody puisse finaliser le dossier. Selon le ministre, c'est en attendant.
Oui, mais en attendant quoi? Alors là, vous comprenez qu'il y a une mauvaise volonté. Il faut vraiment le dire, parce que nous ne sommes pas à notre premier accord avec le gouvernement. Mm. Vous allez vous souvenir qu'en 1999, le 11 septembre, au centre kimbanguiste, eh bien, on scellait les partenariats pour un salaire décent à octroyer aux enseignants, à la fonction publique d'une manière générale et aux enseignants en particulier. Et ces salaires-là, c'est les 208 dollars que nous continuons à réclamer.
Minimum.
Minimum, c'est là, c'est le salaire du huissier. Eh bien, vous prenez la pension de 1 à 10, parce qu'à 10, vous atteignez le secrétaire général. Mmh. Le secrétaire général devrait avoir 2080 dollars, vous comprenez? Et ce n'est pas énorme pour des gens vraiment qui prestent, qui sont là à travailler pour la jeunesse. Alors, malheureusement, on arrive en 2001, on endosse ce que nous avons fait au niveau du centre kimbanguiste, eh bien le gouvernement a dit « Ok, je vais m'y employer ». Et rien n'a été fait. Nous sommes allés le 12 février 2004, nous avons été représentés là-bas par tous les syndicats que vous connaissez de l'administration publique et les syndicats interprofessionnels. Eh bien, là, le gouvernement prend l'engagement de payer le salaire des enseignants, donc de payer le 208 dollars qui avait été accepté au niveau du centre kimbanguiste, mais par principe de palier. Le premier, le second et le troisième. Alors, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, rien n'est fait. Rien n'est fait parce que le deuxième, le premier palier devra intervenir au mois d'avril. Mm-hmm. Le deuxième palier, c'était au mois de juin, octobre. Et finalement, après, ça serait le troisième palier. Bon, aujourd'hui, nous sommes déjà en 2005.
Donc, aucun palier n'a été...
Mais rien du tout, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on paye à l'enseignant?
Eh bien,
nous avons 9000 francs de transport, ajoutés à cela 800 francs congolais. Ça, c'est le salaire de huissier. Donc, vous prenez 800 francs congolais, vous ajoutez les 9000 francs de transport, eh bien, ça vous donne l'enveloppe que touche un enseignant de Kinshasa, s'il vous plaît.
Et alors, à l'intérieur?
À l'intérieur,
parce que vous n'êtes pas seulement secrétaire général des enseignants de Kinshasa.
Non, oui. Nous sommes à l'intérieur, oui. Mais posez la question aux amis de Mbandaka, posez la question aux amis de Lubumbashi, et d'ailleurs, de partout. Eh bien, à l'intérieur, jusqu'aujourd'hui, les 9000 francs des transports ne sont pas payés. Mais vous devrez également comprendre qu'est-ce que nous revendiquons. Nous avons dit au gouvernement, les 9000 francs, si on les mettait comme traitement d'activité, eh bien, on pouvait encore vous comprendre. Mais le 9000 francs, c'est bien les indemnités des transports. Donc, les transports, comprenez que le jour qu'on dira, eh bien, nous supprimons les transports, l'enseignant reste avec quoi? Vous comprenez? Alors, nous disons, il faudrait bien que le gouvernement se ravise quand même, que le développement de ces pays, c'est aussi l'éducation. Alors, je me dis que les enseignants se tranquillisent, parce que nous sommes en train de travailler, et le ministre a dit que dans les écoles conventionnées catholiques, et là aussi c'est choquant, il dit que dans les écoles conventionnées catholiques, on avait déjà perçu...
Donc voilà, hier le ministre disait que au niveau des écoles conventionnées catholiques, il y avait des perceptions en avance, avant même que les services ne soient consommés.
Mais oui, mais lui en tant que ministre des tutelles, c'est la question qu'on attendait, qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir sanctionner.
Mais est-ce que c'est vrai d'abord?
Non. J'ai dit non. Absolument non. C'est-à-dire quoi? Au niveau des écoles catholiques, comme vous savez que c'est l'un des réseaux le mieux organisé, parmi les réseaux, disons quand même, le mieux organisé, eh bien, déjà à la fin de l'année, on prend contact avec les parents, avec le comité des parents, pour projeter l'année prochaine, hein, afin d'éviter l'inattendu. Eh bien, lorsqu'on arrive à l'exercice, eh bien, on se retrouve, il y a des parents qui payent déjà, notamment pour les classes de recrutement, eh bien, il y a des écoles qui font déjà payer le frais pour les élèves qui entrent en première année et les élèves qui entrent en troisième année. Ça, ça se fait. Mais dans combien d'écoles? C'est ce que le ministre n'a pas dit.
Dans combien d'écoles?
Dans combien d'écoles, mais dans quelques écoles. Et je vous dis que c'est de l'ordre peut-être de 2 ou 3% d'écoles qui ont perçu jusqu'à peut-être au deuxième trimestre. Considérer que c'est jusqu'à la fin de l'année, je pense que ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct parce que les écoles où les parents acceptent quand même de payer peut-être jusque vers le deuxième trimestre, il faut considérer les écoles de la Gombe. Ok, mais vous comprenez que Kinshasa, ce n'est pas les écoles de la Gombe. Et lorsque vous prenez par exemple les écoles d'association, les jésuites ou encore les ICM, eh bien vous allez comprendre que dans ces écoles-là...
ICM, ça veut dire, pour nos auditeurs.
Les écoles comme les Kabambar, Movenda, ce sont les écoles qui sont gérées par des sœurs. Eh bien là, vous comprenez que... les parents avaient accepté de payer jusqu'au deuxième, jusqu'au troisième trimestre.
Une convention entre la direction de l'école et les parents.
Et les parents, tout à fait, normal. Mais là, comprenez, mon cher ami, qu'à ce niveau-là, qu'il y a très peu d'écoles qui font exception. Alors, quand le ministre dit que la plupart d'écoles catholiques, j'ai dit faux, parce qu'aujourd'hui, les enseignants sont en train d'observer, parce que pour nous, nous disons, suppression de la prise en charge des enseignants par les parents suppose quoi? Mais un salaire régulier et décent. Je veux dire peut-être acceptable. Un salaire acceptable et régulier. C'est cela.
Acceptable, ça serait combien pour vous?
Bien, mais l'accord est déjà là.
En attendant Mboudi.
Non, on ne peut plus attendre Mboudi parce que sinon le gouvernement...
Selon le ministre, hier ce qu'il disait, il voulait une situation en attendant que la commission Mboudi finalise toute la situation par rapport à l'ensemble des fonctionnaires. Et c'est ce que d'ailleurs, c'est la réaction d'un auditeur de Isiro qui s'appelle Banassé, qui nous a dit ceci, s'occuper des enseignants c'est bien, mais il faudrait penser aux autres fonctionnaires aussi, ils ne sont pas mieux payés que les enseignants. Et que donc, y aller étape par étape, c'est l'esprit de cette préoccupation de cet auditeur.
Oui, mais lorsque nous parlons des enseignants, dans l'enveloppe de la fonction publique, nous sommes 230 000. Vous comprenez que c'est le corps le plus représentatif. Mais nous ne disons pas que lorsqu'il y a des améliorations au niveau des enseignants, qu'on met de côté les fonctionnaires. Non, l'accord de Mboudi lit toute la fonction publique. Et dans la fonction publique, vous avez tous les services. Il y a l'armée, il y a les enseignants. Nous parlons au nom des enseignants. Et je pense que les travaux que nous faisons, vraiment, nous amènent à pouvoir réclamer. Et aujourd'hui, s'il faut proposer encore des salaires intermédiaires, je me dis quand même que c'est quand même prendre beaucoup de risques. Hein, parce que les enseignants ne sont pas vraiment prêts à accepter n'importe quoi. Regardez, le ministre dit qu'il a le souci des enseignants. Mais aujourd'hui, vous savez que tous ceux qui ont réclamé, eh bien, il y a eu des primes. Mais jamais on a octroyé des primes au niveau de l'EPSP. Nos collègues au niveau de l'université, vous savez, on a octroyé des primes. Les médecins, on vient d'accorder des primes, vous le savez. Et aux enseignants de l'EPSP, on parle de $50. Mais je dois dire que c'est une véritable agression qu'on fait contre l'enseignant.
Monsieur Jean Bosco Pounal, oui. Le ministre hier disait que ces réclamations montaient à quelques mois des élections et qu'il y avait une exploitation électoraliste de cette situation.
Oui, mais par rapport à l'Église ou par rapport aux syndicalistes. Parce que je sache, l'Église est en dehors de la politique.
Par rapport aux syndicats.
Oh, mais par rapport aux syndicats. Mais les syndicats, j'ai 20 ans de carrière, vous savez. Mais si aujourd'hui je ne me bats pas pour défendre ce que j'ai appris à l'école, eh bien, je serais même ridicule, parce que c'est moi qui forme le ministre, c'est moi qui forme le journaliste que vous êtes. Et donc, c'est moi qui dois donner des leçons à tous ceux que j'ai formés, afin qu'ils prennent conscience. Parce qu'aujourd'hui, si on ne prend pas conscience, que deviendra le Congo demain? Allez aujourd'hui dans les ISP, dans les IPEN, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on crée des facultés ayant trait aux sciences financières commerciales.
Donc, informatique.
Mais tout à fait informatique. L'enseignement est en train de disparaître. Mais qui va former les élèves demain? Vous comprenez? Là, c'est toute la question.
Je pense qu'on nous dit que nous avons peut-être dans les meilleures conditions d'écoute, Madame la vice-ministre. Bonjour.
Bonjour, mon frère.
Mais on pense que quand même 50 dollars minimum pour un enseignant, Madame la vice-ministre, ce n'est pas suffisant pour les enseignants.
Bon, pour le moment, nous avons un problème. C'est vrai que tout le monde parle de la prime, que nous devons arriver à annuler la prime qu'on donne aux enseignants. Mais les négociations continuent parce qu'au niveau du gouvernement, nous avons fait passer le désidérata des enseignants et nous attendons que le budget 2005 soit voté pour que ça puisse aider tant soit peu la paye des enseignants, parce que là, on a essayé de majorer un peu.
Le problème, c'est que ces négociations traînent, Madame la vice-ministre, et que les enseignants commencent à se fatiguer d'attendre.
Non, je ne dirais pas que les négociations traînent. Le budget est déjà déposé. Pour le moment, il est en train d'être analysé au niveau du Parlement, parce que nous l'avons déposé au Parlement.
Est-ce que on a la certitude que ces dossiers ont été inscrits à l'ordre du jour des séances parlementaires?
Bon, je pense, parce que ça a été déposé au moment où on l'a demandé.
C'est quand que ça a été déposé, ce budget?
Nous l'avons analysé, c'était vers la fin de l'année passée.
Mais qu'est-ce que vous dites aux enseignants qui vraiment répondent, réagissent en disant qu'on ne peut pas vivre avec 50 dollars? Un auditeur, d'ailleurs, nous disait hier que... Est-ce que vous-même, Madame la Ministre, si vous aviez un salaire de 50 dollars, est-ce que vous sauriez tenir jusqu'à la fin du mois?
Moi, je pense qu'il y a toujours un débit. Si on commence par ça, prochainement, on va encore ajouter. Ça dépendra maintenant de l'enveloppe qu'on va accorder à l'EPSP. On ne sait pas dire du coup qu'on change tout un système qui était bien installé. C'est question de comprendre qu'il y a quand même une bonne volonté qui fait qu'on veut maintenant changer.
Si c'est vous qui devriez décider en dernier recours, Madame la Ministre, quel salaire minimum donneriez-vous à un enseignant?
Je ne sais pas le dire parce que là, il faut voir le panier de la ménagère.
Mais vous êtes une dame, Madame la Ministre, et vous connaissez la réalité du panier de la ménagère.
Le panier de la ménagère à Kinshasa n'est pas le même que celui que moi j'ai connu là où je viens.
Dans le Kivu, on le sait, mais à plus forte raison, à Kinshasa, le panier de la ménagère est plus cher, plus élevé. Et quand bien même, dans certaines parties de l'Est, c'est moins élevé, mais les responsabilités aussi sont les mêmes et les droits sont égaux pour tous les enseignants, Madame la Ministre, la vice-ministre.
Bien sûr, c'est pourquoi nous disons que les choses sont en train d'être améliorées. Et nous pensons qu'avec un peu de volonté de tous côtés, et de notre côté, et du côté des enseignants, et aussi du côté des parents, parce que cela ne signifie pas que les parents vont lâcher maintenant. Hein? Et un peu de bonne volonté, les choses vont s'améliorer, et le premier pas est déjà fait, le second va suivre.
J'ai en face de moi le secrétaire général du syndicat des enseignants catholiques qui est venu en studio et qui a reçu les réactions de ses collègues enseignants qui n'étaient pas assez contents de ce que le ministre disait hier sur nos antennes par rapport à ça. Et vous répétez aujourd'hui que 50 dollars c'est un début, mais un début qui est très très insignifiant, madame.
Bon, là alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez que je donne comme réponse. Je dis que c'est un début. Nous connaissons les conditions de l'enseignant. Moi, personnellement, j'ai été enseignante. J'ai toujours défendu les causes de l'enseignant. Depuis que je suis au ministère, c'est ce que je fais. Alors, je me dis, c'est un début parce que nous venons quand même de décrocher quelque chose. Parce que l'année passée, nous avons tenté, vous avez suivi, ça n'a pas été facile. Cette fois, on vient de décrocher quelque chose et comme il y a des promesses, qui nous rassure un peu, nous pensons que ça va s'améliorer.
Je vais vous laisser écouter la réaction d'un auditeur sur cette question.
Je revendique d'abord l'augmentation salariale et la suppression de la prime par le parent, de la suppression de la prime, n'est-ce pas, notamment par les parents, et puis le paiement attend, parce que souvent le paiement est libéré avec un grand retard de plus d'un mois. En effet, je voudrais dire ceci, que l'heure n'est plus au beau discours alléchant, mielleux. que le ministre nous a tenu hier. L'enseignant a plutôt besoin de quoi vivre. Il a longtemps souffert, plus de 32 ans c'est trop. Si le ministre se décharge sur le Parlement, nous vous prions, M. Walter, d'inviter dans ce cas, n'est-ce pas, le président du Parlement sur vos antennes, qu'il puisse nous dire pourquoi l'aval de ce budget traîne en longueur. Et ce, nous lui demandons d'en avaliser le plus rapidement possible pour que l'enseignant touche déjà son salaire d'ici la fin de ce mois. En plus, il n'y a pas seulement le problème de révision des tableaux barémiques, mais aussi le paiement, n'est-ce pas, tardif, n'est-ce pas, donc le paiement des salaires à temps opportun. Car l'enseignant touche présentement, n'est-ce pas, son salaire macabre avec un retard d'un mois, pendant qu'il est prévu de le toucher chaque le 20 du mois. Que le ministre puisse justifier également cet aspect. J'espère que mon message passera. Je vous appelle de Kalebi, dans la localité de Moutakouya. Je m'appelle Frédéric.
Madame la vice-ministre, voilà, cet auditeur de Kalemie me demande d'inviter le président du Parlement. J'espère que Dieu m'en donnera la chance. Mais une question qui vous concerne d'abord directement, comment allez-vous résoudre cette question du paiement tardif? Ça arrive avec beaucoup de retard, madame.
Bon, ce problème est posé, c'est pour tous les ministères. Ce n'est pas seulement pour le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Nous sommes en train de voir comment améliorer. D'ailleurs, au niveau de l'EPSP, on a même demandé aux gestionnaires d'avoir des comptes, d'ouvrir des comptes, pour nous faciliter, de façon que ce retard-là soit un peu corrigé. Vous savez, nous venons d'une longue période où il y a eu beaucoup de désordres, il y a eu beaucoup de troubles. Maintenant, nous sommes en train de corriger. Les premiers pas sont en train de se faire voir, et nous espérons que dès que les gestionnaires auront à tous les niveaux de la République des comptes, les choses se feront aisément. Et avec notre service de Sécopé, on saura suivre tout dès le départ de Kinshasa, jusque même au niveau des provinces.
Monsieur Jean Bosco, pour une réplique.
Bon, une réplique, tout ce que je peux dire. J'en profite d'ailleurs pour saluer tous les enseignants à travers la République, ceux-là qui ont accepté de travailler, parce que n'oubliez pas que le métier de l'enseignement, vraiment, c'est un métier très difficile, parce que nous n'avons presque rien. Mais j'ai dit, par rapport à la préoccupation de Frédéric Descalémiers, que le gouvernement doit faire attention à la régularité. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, au niveau de Kinshasa, le mois de décembre, le mois de janvier, nous sommes déjà le 20. Hein, le mois de janvier, ce n'est pas à l'ordre du jour. Le mois de décembre n'est pas encore payé. Donc déjà, la modique somme qu'on nous alloue hein, ne vient pas régulièrement. Alors, lorsqu'on parle de 50 dollars, nous ne savons pas exactement, peut-être que madame la vice-ministre va devoir réagir, nous ne savons pas exactement, est-ce que ce mois de janvier, c'est ce montant-là qui va être payé. Et en plus, il y a l'auditeur qui vous invite à inviter le président du Parlement. Je pense qu'il n'a pas tort. Et là, le Sénécat interpelle le Parlement pour que les améliorations auxquelles son Excellence le ministre de l'EPSP a fait allusion, eh bien que ces améliorations, parce qu'il a dit qu'on pourrait aller crescendo. Mm-hmm. Alors nous pensons que le Parlement va s'atteler et rapidement pour finalement ne plus parler des 50 dollars, parce que c'est quand même offensant qu'un Parlement qui se respecte puisse avaliser 50 dollars à donner à l'enseignant. Voilà ce que moi je peux avoir comme réaction. Régularité des salaires, mais un salaire acceptable. Et les accords juridiques sont déjà là.
Ok. Madame la vice-ministre, quand interviendra la paye de décembre? Parce qu'on vient d'apprendre que les enseignants ne sont même pas encore payés pour le mois de décembre.
Bon, là aussi, je ne sais pas vous dire exactement si ça intervient, quel jour. Laissez-moi le temps de descendre au niveau du bureau Sécopé pour vérifier comment ça évolue. Parce que là aussi, c'est le problème que je viens de poser. Là où il y a de comptes bien connus, bien retenus, la paye a déjà commencé. Il faut que j'aille vérifier quand est-ce que l'argent pour le mois de décembre sera disponible. Mais aussi, ce que j'ai dit encore avant, il faut reconnaître qu'il y a quand même des efforts qui sont en train d'être faits. Voyons comment on va corriger ces éléments ensemble. Ne laissons pas seulement la balle au niveau du ministère, non. Même au niveau des parents, au niveau des enseignants, que chacun essaie de récupérer ses responsabilités. Je vais aller vérifier pour voir quand est-ce que le salaire du mois de décembre va être payé. Mmh. Mais aussi, il y a une question qu'on a posée,
oui.
Si le $50 allait intervenir déjà au mois de janvier.
Voilà.
Là aussi, je ne sais pas vous dire directement oui, parce que le budget sera étudié. C'est quand nous allons appliquer ce budget 2005 qu'on va commencer à payer cet argent-là. Soyons logiques.
Oui, en fonction de quoi on doit faire cette logique, madame, parce que il y a certains corps professionnels de la République qui ont bénéficié des avantages, mais le corps, si vous voulez, fondation, si on va considérer la nation, l'éducation comme une grande maison, la fondation, c'est au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, vous le savez.
Oui, nous, pour les TSP, tous les éléments étaient mis ensemble pour que le budget retiennent ces éléments-là. Et puis les $50-là, c'est la base. Il y a des échelons qu'on va donner aux enseignants. Il y en a qui auront un peu plus. Et là, les éléments, nous les avons inclus dans les doléances, disons, les données que nous avons présentées au ministère du budget.
D'accord.
Et ça a été retenu. Attendons voir ce qui sera appliqué.
En attendant que ce soit appliqué et qu'on évolue dans le débat, je vous laisse écouter une autre réaction.
Bien, je m'appelle Béli Debunga, je suis député de l'Assemblée nationale. Je viens d'entendre Madame la ministre parler du dépôt régulièrement par son ministère à l'Assemblée nationale, ou plutôt par le gouvernement. Je dirais que d'abord, ces budgets étaient présentés en retard, ce qui fait que nous n'avons pas pu traiter ces budgets dans les termes voulus et dans les temps voulus. Et certainement que si il y a une session extraordinaire qui est convoquée par le président de la République, en ce moment-là, nous aurons certainement une priorité à traiter de ce budget. Mais par rapport à la question, je voudrais dire qu'il faut absolument supprimer la prise en charge, parce que je pense qu'il est grand temps que l'État soit mis devant ses responsabilités. Or, je constate que les enseignants tiennent à la poursuite de la prise en charge par les parents, dès qu'ils tirent des primes consistantes, disent-ils. À mon avis, les enseignants doivent maintenant se diriger vers leur vrai employeur, que l'État. C'est vrai que le montant sera réduit à la baisse et par rapport à la prise en charge, mais en poursuivant la pression par le mécanisme approprié et autorisé, ils feront relever progressivement leur traitement à côté d'autres secteurs. Mais en maintenant la prise en charge, ils rendent l'État beaucoup moins pressé et obligé d'améliorer sensiblement leur traitement, et donc le traitement des enseignants. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci.
Voilà, Madame la vice-ministre, un député qui vient de nous confirmer que le dossier est arrivé en retard au niveau du Parlement et que donc il va falloir une assemblée extraordinaire. Ça inquiète encore davantage les enseignants.
Bon, je pense que le gouvernement a déjà déposé ce budget. Si c'est arrivé en retard, ce n'est quand même pas en retard par rapport à ce qu'on a eu les années passées. Je considère jusque là qu'il y a eu un effort, il y a eu un pas, encore une fois. Et ça dépendra maintenant des parlementaires, de la façon dont ils vont analyser ce budget. S'ils vont nous ajouter encore quelque chose, ça ne va que nous encourager, ça ne va que nous intéresser. Parce qu'au niveau des parents maintenant, nous ne pouvons pas aussi dire que d'emblée, la prime disparaît, ou alors nous maintenons le montant où nous ajoutons. Ça n'est pas aussi d'une école à une autre. Parce qu'il y a de ces écoles-là qui ont déjà tout récupéré, des parents dès la rentrée, et qui ne savent pas rembourser. C'est question de voir avec les amis syndicalistes, avec les enseignants, comment on va gérer cet argent. Mais moi, je pense, quand on va appliquer le budget 2005, les niveaux de syndicats, les niveaux des enseignants, parce qu'au niveau de chaque école, il y a quand même des comités qui suivent ces primes-là, la gestion de ces primes. Tout le monde va mettre sa main sur la patte pour essayer de gérer et au besoin, remettre aux parents le surplus d'argent qu'ils auraient déjà versé au niveau des écoles. Parce qu'il est vrai, il faut reconnaître que la prime, quand elle a été instituée, c'était pour sauver une situation. Personne ne pouvait s'imaginer que ça allait perdurer. Mais aujourd'hui, ça perdure avec des méfaits, malheureusement.
Et on a l'impression.
Si ça perdurait avec des bienfaits seulement, ça ne poserait pas de problème. Mais maintenant, ça crée trop de méfaits et nous sommes gênés Nous devons absolument abandonner ce système.
Quelque part.
Faisons ça ensemble pour que ça puisse disparaître.
Oui, mais quelque part, madame, le gouvernement s'est contenté de cette situation parce que ça faisait des charges de moins.
Non, ne vous en faites pas, ce n'est pas ça.
Réplique et réaction du secrétaire général du syndicat des enseignants catholiques, Jean Bosco Pouna.
Oui, merci Walter, mais je crois bien que madame défend sa chapelle. Et c'est comme ça que ça va se passer. Et nous devrons défendre la chapelle des enseignants. Donc, madame, lorsqu'elle parlait, elle est revenue sur les difficultés que connaît le pays. Mais écoutez, la prime a été instituée depuis 1993 déjà. Eh bien, c'est l'Église qui avait fait appel aux enseignants et aux parents. L'État n'était même pas là parce qu'il était vraiment disqualifié. Alors, les parents se retrouvent avec l'Église et les enseignants. Nous nous disons, bien, nous trouvons un modus vivendi pour pouvoir sauver l'année. Eh bien, comme madame vient de le dire, et là, elle a raison, elle dit que non, c'est un système qui était un palliatif provisoire. Donc, il devrait être démis peut-être 2 ans après. Malheureusement, aujourd'hui, on en a fait un système de gestion. C'est un système de gestion. Et comme vous venez de le dire, donc l'État, pour lui, c'est une charge de moins. Mais nous savons que si l'État se ravise et qu'il prend conscience, nous savons que la situation peut vraiment s'améliorer. C'est pourquoi nous disons au gouvernement, nous disons pas simplement au ministère des tutelles, mais nous parlons au gouvernement. Le gouvernement qui doit vraiment tout mettre en œuvre pour pouvoir garantir l'éducation à l'enfant congolais. Parce que vous savez que notre gouvernement a ratifié un certain nombre d'instruments juridiques, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant. Donc l'éducation, c'est un droit pour l'enfant, et pour les travailleurs, la Déclaration universelle des droits de l'homme est là, et bien pour les travailleurs, le salaire est un droit. Et je pense que le gouvernement fera œuvre utile pour pouvoir sauver la situation. Parce que si on ne le fait pas, aujourd'hui on revient sur le prétexte que toutes les écoles ont perçu. Mais vous comprenez bien que c'est de l'irresponsabilité. Parce que lorsque son Excellence venait aux affaires, le premier combat, le leitmotiv pour lui, c'était quoi? Eh bien, je viens et nous allons supprimer la prime. Même les différents ateliers qu'il a eu à tenir avec les partenaires.
Au centre populaire français.
Mais justement, le slogan, c'était quoi? Le slogan, c'était la suppression. Donc, on ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'il y ait des écoles qui perçoivent jusqu'à la fin de l'année et qui ne soient pas sanctionnées. Bon, je vous ai dit en début d'émission que ces écoles-là sont à compter à bout de doigts. Prenez les 10, les 10 provinces de la République. Nous mettons d'abord Kinshasa de côté. Mais dans toutes ces provinces, est-ce que la réalité est la même? Est-ce que l'enseignement, c'est seulement la ville de Kinshasa? Et la ville de Kinshasa, il faut parler des écoles de la Gombe. Donc moi, j'ai dit tout simplement que il y a une fuite en avant, et je pense que le ministère des tutelles doit être vraiment notre vrai syndicat auprès du gouvernement pour qu'on obtienne des améliorations conséquentes.
Le syndicat du syndicat. Madame la vice-ministre, une réplique. Vous voulez bien continuer à jouer ce rôle du syndicat des enseignants auprès du gouvernement?
Oui, nous avons toujours été le syndicat des enseignants auprès du gouvernement. Nous l'avons toujours dit aussi à nos amis syndicalistes, ils le savent, c'est pourquoi ils le répètent. Et nous allons continuer à le faire jusqu'à ce que l'enseignant sera réellement un vrai monsieur, comme je l'ai toujours dit.
Bien, Madame la ministre, quel est le meilleur cadeau que vous pouvez offrir aux enseignants pour 2005? Un dernier mot pour conclure.
que les amis, les frères enseignants et enseignantes travaillent toujours comme ils l'ont fait. Ils aient la bonne volonté d'éduquer nos enfants, parce que ce sont nos enfants, ce sont leurs enfants. Et nous sommes toujours avec eux, nous allons continuer à pousser la machine jusqu'à ce que leurs revendications auront vraiment de bonnes suites.
Quand bien même un auditeur de Badolite et Papier Bonza pense qu'avec $50, pour un enseignant qui est locataire, qui a des enfants, il ne saura pas manger, il ne saura pas payer les frais scolaires et autres, Papier Bonza pense qu'au gouvernement, vous ne pensez qu'à vos intérêts et non à ceux de ces pauvres enseignants qui vous ont aussi enseigné.
Je ne pense pas. Nous pensons aux intérêts de tout le monde. Je l'ai dit au début, c'est un pas qu'on vient de marquer. Commençons quelque part et la suite va venir. Nous devons arriver à réaliser les revendications des enseignants telles qu'arrêtées dans les différentes rencontres des syndicalistes avec le gouvernement. On doit arriver à cela, mais maintenant, là, commençons quelque part, acceptons d'abord ce qui arrive et avec le temps, ça va s'améliorer.
Bien voilà, Madame la Ministre, merci beaucoup de vous être prêtée à nos questions, à cet échange avec la Secrétaire Générale du Syndicat des Écoles Catholiques, avec nos auditeurs qui sont intervenus. Nous gardons à cœur ce dossier et le jour que le Parlement décidera, on suivra évidemment et comptons sur votre disponibilité pour commenter ce dossier avec nous. Bonne journée et bonne chance dans votre souci d'améliorer les conditions des enseignants.
Merci, merci à vous.
Merci beaucoup. Alors, très bien. Donc, d'autres réactions qui arrivent. Florent Loulou-Bélé de Bounia. L'enveloppe est passée de 2 milliards à 5 milliards. Si on tient compte de cette enveloppe, le minimum ne serait pas 50 dollars. Ah bon. Je suis pour les évêques qui ont suspendu la prime, qui demandent la suspension de la prime. Vous repréciser les choses parce que c'est pas encore un acquis tant que cet argent n'est pas donné, tant que le budget n'est pas adopté, si vous voulez, le gouvernement doit prendre en charge ses responsabilités. Mais là, c'est une belle chute. Pierrot Kamoé de Lubumbashi, si le gouvernement ne parvient pas à honorer sa promesse vis-à-vis des enseignants et que ces derniers allaient en grève jusqu'à un délai indéterminé, ces enseignants et le gouvernement vont encore pénaliser les parents et les élèves en déclarant une année blanche. Ils s'interrogent comme ça.
Oui, année blanche, mais je pense que le pouvoir organisateur de l'enseignement, c'est l'État. Hein, nous avons eu beaucoup de soucis pour le gouvernement et pour les enfants, et c'est pourquoi nous avons accepté de travailler depuis lors. On nous a dit sous Mobutu, il y avait pillage, etc. Et après Mobutu, il y avait le président Laurent Kabila qui nous a parlé de la guerre. Et aujourd'hui, nous vivons l'époque du président Joseph Kabila. Eh bien, on nous parle de la transition.
1+4.
Oui, la formule.
Pas seulement Joseph Kabila, oui, c'est voilà, 1+4.
Tout à fait.
Donc, tout le monde avons, dans le même panier.
Voilà, les pouvoirs des composantes. Alors, vous comprenez que nous nous disons, comme nous avons un pouvoir des composantes, il y a peut-être débat, et c'est maintenant ou jamais. Et là, nous disons tout simplement à nos camarades enseignants qu'ils viennent de suivre eux-mêmes les réactions de l'autorité des tutelles, et je pense qu'il n'y a pas trop de commentaires à faire. Hein, c'est pour dire que quand le mot d'ordre sera lancé, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut arrêter la grève si le gouvernement ne fait rien. Je vous dis, personne. Au moment où, sur le terrain, vous avez le mémorandum des évêques qui, en fait, a appuyé simplement l'action des enseignants.
Ok, nous allons prendre pour quelques minutes le président de l'Association des parents élèves du Congo, M. Kipoulou, bonjour.
Bonjour.
Alors, à votre avis, quelle pourrait être la sortie de cette crise où les enseignants sont mal payés, réclament la suppression de la prise en charge par vous, parents? Comment ça pourrait être la solution, à votre avis?
Bon, d'abord, nous ne sommes pas les employés des enseignants. La solution doit venir de l'employeur, c'est-à-dire qu'elle doit être d'abord budgétaire. Il faudra qu'on arrive à voter un budget conséquent pour bien payer les enseignants. C'est la solution. Il n'y a pas deux solutions. Et la deuxième est l'administrative. Il faut bien inventorier les écoles, les effectifs des enseignants dans les centres urbains et dans l'arrière-pays pour savoir qui paye, qui n'est pas payé.
Mais alors, à votre avis, jusqu'à quelle période, pendant combien de temps encore, vous, parents, accepteriez-vous de prendre en charge les enseignants?
Bon, en principe, pour nous, parents, même tout de suite, nous sommes prêts à abandonner. Parce que c'est comme si quelqu'un a un fardeau sur la tête et un autre vient pour lui dire « je voudrais vous soulager » et que celui-là refuse. Nous sommes prêts à accepter tous les bons offices pour que nous ne puissions plus prendre les enseignants en charge. Mais ce qui est vrai, c'est que nous ne serons pas là pour supporter la retraite des enseignants. Nous ne sommes pas là pendant les maladies et pendant les vacances pour soutenir les enseignants qui sont nos frères. Mais eux-mêmes, enseignants doivent prendre conscience.
Mmh. Et voilà, merci donc beaucoup Monsieur Kipoulou. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes président de la PEC, Association des parents et élèves du Congo. Je vous remercie d'avoir donné votre point de vue sur la question.
Merci.
Merci beaucoup. On va conclure avec vous Jean Bosco Puna. D'abord à commencer par cette réaction de Mbujimayi, Roger Tshibangu. Il réagit comme suit, je cite, « La période des discours démagogiques est passée et l'enseignant RDC ne peut pas être véhiculé, il est toujours mal habillé, il ne peut même pas se payer la nourriture à son goût pendant qu'il a formé des têtes d'un si grand pays, c'est malheureux. » Il constate cela.
Oui,
ils constatent, et c'est la démotivation au travail, vous le comprenez. C'est vraiment un véritable désarroi. Et nous disons tout simplement qu'il faudrait qu'il y ait une synergie. Il faut que tout le peuple se mobilise pour démettre un système qui a baissé sensiblement le niveau de la qualité de l'enseignement. Regardez aujourd'hui l'évaluation à l'examen d'État. Eh bien, vous savez que...
Plus que 30 secondes. Hein?
Oui, alors là, j'ai dit que il faut que j'en profite pour dire à tous les camarades enseignants que nous devons être en alerte. Vous savez, aujourd'hui, si vous ne vous battez pas, si l'enseignant ne se bat pas pour défendre sa carrière, personne, en tout cas, que je sache, ne viendra le faire à sa place.
Voilà, c'est ce que vous avez fait. Monsieur Jean Bosco Pouna, je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat des enseignants catholiques. Nous avons été très heureux de vous recevoir pendant près d'une heure pour parler de cette question qui vous tient à cœur. Vous avez fait le porte-parole de tous vos camarades enseignants. C'est vous qui nous avez formés. On est votre fruit. Merci beaucoup d'être venu et bonne chance.
Je vous remercie.
Merci beaucoup. Ok, bien sûr, deuxième partie, on reste ensemble pour la dernière heure de Okapi Action. Et on part de Kisangani pour parler d'une situation qui fait grincer les dents les habitants de la commune de Kabondo. Cette commune est située à l'est de la ville de Kisangani. La commune est plongée dans le noir depuis environ 3 ans. Selon la Société Nationale d'Électricité, cette obscurité est due au fait que tous les 5 transformateurs qui l'alimentaient étaient en l'espace. Tomber en panne en l'espace d'une année, je veux dire. Cette situation a plongé la commune dans une insécurité quasi permanente et les activités commerciales qui commençaient à s'intensifier malgré la guerre sont aujourd'hui paralysées. Alors, la MONUC et l'ONG Chemonitz sont venus à la rescousse. Il y a 3 mois, la commune a reçu 4 transformateurs. L'on croyait que le problème allait être résolu à ce moment-là, mais les espoirs sont tombés à l'eau. Et pourquoi ? En fait, les câbles à moyenne tension sont vieux. Et donc, l'espoir qui pointait déjà à l'horizon commence à s'évanouir. Mais cet espoir renaît, remonte aujourd'hui, parce que monsieur l'administrateur directeur technique de la SNEL est de passage à Kisangani. Et là, les habitants de Kabondo espèrent que la situation va être décantée. Je dis bien espèrent, parce que monsieur l'ADT a promis de rétablir le courant très rapidement dans la commune de Kabondo. Bon, moi je suis à Kinshasa, on va chercher à avoir plus d'informations avec notre collègue Godly Bomondo qui est elle à Kisangani et qui est allée à Kabondo. C'est Godly Bomondo. Bonjour Godly.
Bonjour Walter.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner la situation géographique de la commune de Kabondo et nous dire également son importance sur le plan économique pour la ville de Kisangani?
Oui Walter, comme vous l'avez dit tout au début, la commune de Kabondo se trouve à l'est de la ville de Kisangani. Sa population est évaluée à plus de 100 000 personnes. C'est l'une des portes d'entrée de la ville de Kisangani, outre les routes secondaires qui mènent vers les zones d'exploitation minière. Son artère principale débouche sur la route de l'aéroport international de Bangoka. Des représentations donc de maisons d'achat de diamants foisonnent également dans cette juridiction qui compte pas mal de creuseurs et aussi autres boulonneurs de diamants. En sortant de la brousse, ces personnes-là, ces diamantaires-là, n'avaient pas besoin d'arriver au centre-ville pour la vente de leurs diamants et ils pouvaient donc écouler leurs pierres précieuses sur place à Kabondo. C'est pour dire qu'on y trouvait presque tout.
Mmh. Mais alors, qu'est-ce qui est à l'origine des dégâts causés dans les cabines de Kabondo, telle enceinte que tous les cinq transformateurs ont été complètement grillés?
Walter, selon le directeur de la SNEL Kisangani, M. Aguzu, que nous avons contacté à ce sujet, cela est dû au manque d'huile. Donc les huiles destinées à ces transformateurs ont été volées dans des cabines par des inciviques. Mais un autre transformateur, le cinquième donc, qui alimentait une grande partie de Kabondo, était grillé à cause de la surcharge.
Mmh. Est-ce que vous pouvez nous parler de la vie des habitants de Kabondo? Parce que là, c'est intéressant pour Okapi Action d'aller dans la réalité quotidienne de la vie, comme elle va. Ces 3 dernières années d'obscurité, comment les habitants de Kabondo ont vécu ça? Est-ce qu'on a noté des conséquences sur leur situation économique, sociale et sécuritaire?
Aujourd'hui, tout est au point mort à Kabondo. Toutes les activités sont paralysées. Ceux qui ont des possibilités ont dû déplacer leurs activités pour le centre-ville où l'électricité est quasi permanente. Et aussi sur le plan sécuritaire, l'obscurité dans cette partie de la ville occasionne une insécurité presque permanente aussi. Si on peut suivre les témoignages de M. Ali Kaboulo, un des habitants de Kabondo.
Vous savez, c'est un problème très, très, très crucial. Du fait que, d'abord, la population est tellement démunie. Nous venons de sortir d'une guerre et il faudrait assez qu'on puisse assister cette population. Il y a des barmen qui n'ont pas de courant. Donc, tous les bars, de buvettes, de pharmacies, tous les points de vente. Donc, les commerçants ne peuvent pas tourner à 100%. Les moulins, les riseries, donc tout ça, donc ça ne fonctionne pas à Kabondo. Nous sommes dans l'obscurité totale. La petite et moyenne entreprise qui ne fonctionne plus.
Ali Kaboulo, habitant de la commune de Kabondo à Kisangani, dans la partie est de la ville, hein, Stanleyville, comme on dit, la ville de Stanley. Où est-ce qu'on en est à Godlive actuellement avec peut-être des démarches ou des travaux même, des rétablissements du courant électrique dans cette commune, parce qu'on ne peut quand même pas vivre sans électricité en pleine ville, Godlive. En rappelant aux auditeurs que Kisangani, c'est la troisième ville du pays.
Oui, Walter, c'est la troisième ville du pays, avec la crise aussi que la Société nationale d'électricité, qui s'en allait à traverser durant ces 5 années de guerre. Le remplacement des 5 transformateurs endommagés n'était pas facile, et n'est pas facile jusqu'aujourd'hui même. Néanmoins, elle a frappé sur plusieurs portes pour demander assistance. Et aussi, du côté des habitants de Kabondo, ils n'ont pas croisé le bras. Ils se sont organisés en un comité d'électrification de leur commune pour appuyer toutes les démarches de la SNEL. C'est pourquoi la MONUC, dans son projet à impact rapide de CUIPS, est intervenue avec un transformateur de 200 kVA et que MONUC en a donné 3 de 400 kVA chacun et 500 câbles basse tension. On constatera alors, Walter, qu'au moment de les placer, les câbles moyen tension restaient longtemps hors réseau, étaient vétustes et qu'il fallait aussi les remplacer. Mmh. 3 mois après, donc l'acquisition de ces 4 transformateurs, la commune est restée toujours dans le noir.
Mais est-ce que la population de la commune de Kabondo comprend quelque chose à cette situation?
La population accuse la SNEL d'être lente dans les interventions. Par exemple, quand il fallait tester les transformateurs ou encore déterrer les câbles qui étaient vétustes. D'autres vont plus loin en évoquant la présence d'une main invisible contre le succès et aussi le développement de la commune Kabondo, suivant encore une fois cet habitant de Kabondo.
Moi, personnellement, je trouve que les gens de la SNEL ne sont pas motivés. Si je dis ne sont pas motivés, ça signifie tout simplement lorsqu'on les envoie pour travailler, pour déterrer des câbles, réparer les pannes, ils arrivent à 8h et à 10h ils quittent le chantier. Et nous, la population, qu'allons-nous faire? Nous ne sommes pas autorisés de toucher ou bien de prendre des démarches d'électricité.
Godlive Mondo, nous avons appris que l'administrateur directeur technique de la SNEL est passé par Kisangani. C'était la semaine dernière. Est-ce qu'il a été saisi de la question et qu'est-ce qu'il a promis de faire?
Il s'est dit préoccupé par cette situation. Après donc une étude avec l'équipe technique sur place à Kisangani, une solution palliative a été trouvée. C'est donc celle de récupérer un câble à moyenne tension dans des réseaux de la SNEL pour ainsi dépanner Kabondo. Selon l'ADT, les travaux sont en cours pour établir le courant dans cette partie et aussi dans bien d'autres coins qui connaissent le même problème, Walter.
Nous apprenons aussi, passant, que l'administrateur délégué général de la SNEL est présentement à Kisangani.
Oui, il est à Kisangani et même avec nous au studio.
Ah, très bien. Donc nous aurons l'occasion de poser des questions au responsable numéro 1 au niveau national et à celui au niveau provincial de Kisangani. C'est pour dire aux auditeurs de la RDC qu'on a 2 autorités qui ont en charge l'électricité actuellement maintenant à Kisangani pour parler de Kabondo avec le directeur de la province orientale et avec l'ADG au niveau de la RDC. Une très très belle occasion. On va faire d'une pierre 2 coups comme on dit. Godlive Mondo, je me sens déjà impatient de retrouver les auditeurs face à ces 2 autorités. Et à vous, je vous remercie beaucoup de nous avoir fourni toutes ces informations. Et à très bientôt, Godlive.
Et Walter, si je peux dire, donc l'ADT n'est pas à Kisangani, mais il y a plutôt l'administrateur délégué général qui est avec nous au studio.
Oui, oui, c'est ce qu'on a dit. On s'est très bien compris. L'ADT est déjà rentré, mais c'est l'ADG qui est là. Donc on a très bien compris. D'une pierre deux coups, je m'en frotte déjà la main si tu peux le sentir. Hein. À bientôt,
c'est le directeur commercial plutôt, Walter, le directeur commercial.
Ah, autant de précisions. Il va nous expliquer tout ça tout à l'heure. Au Capi Action, en plein cœur, dans la réalité des populations de Kisangani, principalement la commune de Kabondo. 3 ans dans le noir, 3 ans sans électricité. Les nouveaux opérateurs commerciaux ont vu leur rêve s'effondrer parce qu'il n'y avait pas de courant pour commenter cela. Nous avons d'abord monsieur le directeur de la SNEL au niveau de Kisangani, monsieur Agouzou. Bonjour monsieur.
Bonjour, c'est le journaliste.
Voilà, moi c'est Walter Molondi en fait. Bon, excusez-moi. C'est par rapport aux auditeurs hein, qu'on a entendu tout à l'heure et aux habitants de Kabondo qui estiment que la SNEL est très lente dans ses interventions, malgré que la MONUC a donné un transformateur et que une autre société en a donné 3, mais que vous, la SNEL, vous êtes très très lent pour installer tous ces nouveaux équipements en vue de ramener le courant à Kabondo. Que répondez-vous à cette préoccupation des habitants de Kabondo?
Oui, c'est préoccupé. Donc, ces préoccupations nous occupent, ce qu'ils ont demandé les habitants de Kabondo. Nous savons très bien que nous avions réussi des transformateurs de la part de la Monique et des Camonix pour alimenter ces parties de cité de la ville de Kisangani. Mais dans le cadre de ces projets, il y a aussi que nous avions demandé à ces deux ONG de nous aider avec les câbles. Les câbles surtout, les câbles moyenne pension, étant donné que les anciens câbles qui alimentaient ces cabines étaient très vétustes. Et dans le projet, les câbles étaient figurés, malheureusement, quand le matériel de transport est arrivé ainsi que les câbles, au lieu d'en avoir un câble moyenne tension, ils nous ont amené à la place une câble basse tension, chose qui était presque impossible pour placer les transports. C'est ainsi que durant les passages de notre administrateur technique, nous avions soulevé les cas et nous avions étudié avec lui ensemble quels sont les moyens palliatifs que nous devons faire pour essayer d'alimenter cette cité et nous avions trouvé certains solution à ce sujet. Pour le moment, les travaux sont en cours et nous pensons que d'ici bientôt, si la Monique, que Monique nous remet un camion gris comme on s'était convenu dans une réunion technique, dès la semaine prochaine, cette partie de la ville sera alimentée.
Donc, on donne rendez-vous aux habitants de Kabondo. Ils sont nombreux à nous écouter, hein, monsieur le directeur, parce que si vous dites des mensonges, je veux dire que vous aurez menti. Est-ce que c'est un rendez-vous ferme?
Non, nous avons un rendez-vous avec eux. Je crois que les travaux vont bon train, il n'y a pas un problème. D'habitude, ils viennent nous revoir, nous sommes sur le terrain avec ensemble.
Mélie John, c'est un auditeur qui vient de nous appeler de Rutshuru. Il trouve que vous, de la SNEL, vous n'avez pas de souci là de réparer parce que selon Mélie John, il y a des gens qui ont quitté cette commune de Kabondo à cause du manque d'électricité, qu'ils trouvent plutôt une solution au lieu de temporiser la population pendant qu'ils continuent à bouffer notre argent, écrit-il, parce que jusque là, ils payent quand même les factures. C'est le point de vue de Mélie John.
Bon, pour nous, vous voyez que l'avarie de ces transformateurs ne vient pas de la SNEL. Vous voyez qu'avec les inciviques qui sont entrés dans plusieurs cabines pour voler les huiles, dans ces transformateurs électriques, vous trouvez des huiles électriques à l'intérieur. Une fois que ces huiles sont volées au profit de tous ces petits frigoristes qui sont à travers la ville, et c'est comme ça que ces transformateurs restent sans huile dedans, ils chauffent et ils grillent. Mais les réparations étant donné que nous étions un peu aussi coupés avec la descente générale de Kinshasa, alors il y avait pour nous difficile d'avoir soit les huiles, soit un transport de l'échange. Maintenant, comme les choses se sont rétablies, je crois que les choses vont aller mieux.
Mais l'ADT était de passage à Kisangani. Est-ce que vous allez, avec le passage du directeur commercial qui est là, à Kisangani actuellement, est-ce que vous emmenez les câbles à moyenne tension qui manquaient?
Non, pour l'ADT, nous avions vu, vous voyez que pour que les câbles arrivent à Kisangani, ça va venir par bateau, et c'est le bateau de Kinshasa Kisangani, actuellement, ça prend presque un mois.
Est-ce que ça ne peut pas?
Le problème était là, c'était crucial, nous avions trouvé une solution palliative. Comme nous avons dit tout à l'heure, que nous prendons sur notre réseau des récupérer quelque part des câbles et ramener vers là pour donc dépanner un peu Kabondo, en attendant que les bons matériels arrivent de Kinshasa d'ici 2 ou 3 mois après.
Monsieur...
Et avec le passage de l'ADT, on a essayé de voir toute la situation, un étant donné qu'on avait fait avec lui, pour certains équipements qui nous manquent, notamment concernant certains appareils de mesure, qui nous a promis de nous donner et que je crois qu'un de ces 4 matins, ces appareils seront ceux qui sont gagnés et ça va l'un des peu de miens. Avec le directeur commercial, il est quand même venu voir, puisque vous savez que nous vendons de l'électricité, il faudrait que la population le paye. Il veut voir un peu ces états de liens aussi commerciaux pour voir quelles sont les capacités que la population de Kinshasa peut payer et qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ce côté-là. Puisque nous ne pouvons pas seulement attendre tous de Kinshasa, mais puisque la direction générale, il a aussi d'autres charges. Il faudrait que nous-mêmes, au point de vue, c'est notre à Kisangani, comme nous produisons de l'électricité et que nous le vendons, que nous puissions récupérer notre dû. Il est venu aussi voir ces problèmes-là, exactement comme aussi les états d'aide commerciales.
Oui, mais on va arriver à lui tout à l'heure, mais laissez-moi vous poser cette autre question. Vous dites qu'il faut que les câbles moyenne tension soient mis sur un bateau, donc ça prendrait plus de 2 semaines. Moi, j'ai fait le fleuve Congo au mois de mai de l'année passée. D'abord, ça risque de traîner, de prendre plus que semaine parce que le fleuve n'est pas balisé, il n'est même pas dragué. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre ces câbles moyenne tension sur des avions qui desservent régulièrement Kisangani?
Non, on ne peut pas, mais ça coûte excessivement cher. Vous savez qu'un tourneur de câbles moyenne tension 6 kV, il vous pèse à peu près dans les 3-4 tonnes. Alors, quand vous voulez les mettre dans les avions, suivant son volume, et surtout c'est le volume, oui, ce sont des grands tourneurs qu'on ne peut pas les mettre comme ça et cela coûterait très 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 cher. Mais c'est que la solution que nous venons de les faire, ce sont des bons câbles qu'on va alimenter là-bas. Ces câbles viendront pour réparer les restes. Puisque ce que nous avions demandé, ce n'est pas seulement pour Kabondo, pour l'ensemble de la ville de Kisangani, il y a aussi certaines parties de la ville qui manquent des câbles où les câbles sont devenus des vétistes, qui sont sièges de beaucoup de pannes. Et nous voulons aussi améliorer de ce côté-là aussi.
Donc, premier rendez-vous, Kabondo d'abord. Donc, d'ici une semaine, monsieur le directeur, à Gouzou, est-ce que le rendez-vous sera tenu?
Oui, nous pensons les tenir, puisque pour le moment, les travaux sont beaucoup avancés, et ce qui nous mettra un peu en retard, c'est surtout Camp Kemonix qui va prendre le matériel et mettre sur les cabines, c'est-à-dire avoir un camion-grue, avoir le grue pour les déchargements et les chargements. C'est cette opération de manutention-là que nous attendons pour essayer de commencer à déplacer déjà des cabines qui sont testées et qui sont dans les installations de l'arsenal pour ramener dans les cabines.
Voilà, donc merci monsieur Agozo d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur de l'arsenal à Kisangani. Dans quelques instants, nous allons peut-être poser 2 ou 3 questions au directeur commercial qui est de passage à Kisangani.
Ok.
Alors, monsieur le directeur commercial, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, vous êtes, j'espère bien que c'est monsieur nommé, c'est monsieur Vika Dipanzou.
Monsieur Molongia, oui. Ah, monsieur Molongia, directeur commercial, monsieur Molongia.
Ah, mais oui, voilà, monsieur Molongia, on a déjà eu à vous interroger d'ailleurs une fois à partir de Kinshasa. Alors, qu'est-ce qui justifie votre présence à Kisangani actuellement, alors que les abonnés de l'arsenal se plaignent d'une très baisse, d'une forte baisse de la qualité des services de l'arsenal?
Oui, merci beaucoup pour la question. Et comme le directeur provincial a dit tout à l'heure, nous sommes en train de tout faire pour réhabiliter la situation technique au niveau de la ville de Kisangani. Pour cela, une fois que la situation sera réhabilitée, ça doit être accompagné par les actions commerciales. Vous savez que nous n'avons que ces produits-là, l'électricité, que nous vendons, et nous voulons que ça soit de bonne qualité. Une fois que les produits arrivent chez les clients et qu'on aura rétabli la situation, les agents commerciaux doivent tout mettre en œuvre pour aller prendre l'argent et recouvrer de manière à permettre à la direction provinciale de se prendre en charge, comme a dit le directeur provincial tout à l'heure, et avec cet argent-là, nous allons fonctionner de manière optimale.
Mais alors, avant, on sait souvent que le langage de la direction commerciale, c'est dire aux abonnés, payez vos factures, ça nous permettra d'améliorer les services, mais déjà il y a un problème, c'est qu'ils ne reçoivent même pas ce service, pour ne citer que Kabondo, depuis au moins 3 ans. Est-ce que vous pensez que le message va bien passer?
Oui, nous sommes conscients de cela, vous savez, c'est d'ailleurs le message que la direction générale nous a demandé de porter à la connaissance des habitants de Kabondo. Ça fait longtemps qu'ils sont dans le noir. Leur souci, c'est le souci de la direction générale. Et la direction générale est déterminée à résoudre ces problèmes-là. Vous savez, il y a eu des événements indépendants de notre volonté, des paramètres que nous n'avons pas pu contrôler. Vous le savez à quoi je fais allusion. Maintenant que la situation revient un peu à la normale, la direction générale est déterminée à tout faire sur le plan technique pour donner de l'électricité à la commune de Kabondo. Et il a demandé à la direction commerciale, avec toute son équipe, de prendre les dispositions pour que cette électricité-là qui arrive dans la maison de l'habitant de Kabondo puisse quand même apporter quelque chose à la ville de Kisangani et avec cet argent améliorer progressivement la qualité des produits.
Oui, monsieur le directeur commercial, Kabondo n'est pas l'unique commune de Kisangani concernée par ce problème d'électricité. Il y a d'autres quartiers qui connaissent le même problème. Kisangani n'est pas la seule ville qui connaît les problèmes d'électricité. Il y en a, ça se pose aussi dans d'autres villes du pays. Mais qu'est-ce qui se passe, pourrait-on se poser comme question aujourd'hui au niveau de la SNEL, que alors que nous on dit que la République démocratique du Congo a au moins 50% du potentiel énergétique de l'Afrique, que nous ayons des villes, des cités qui ne sont pas électrifiées?
Tout à fait, tout à fait. Vous avez raison. C'est un problème qui préoccupe les autorités de la SNEL. Vous savez, il y a beaucoup de paramètres là-dedans. Toutefois, ce que nous pouvons faire pour le moment, c'est afficher cette volonté-là de toujours bien faire. Et ça, je peux vous garantir, les comités de gestion actuels, dirigés par l'administrateur délégué général, M. Vic Adipanjou, est déterminé à prendre le taureau par les cornes pour essayer de résoudre le plus rapidement possible et en fonction des moyens disponibles tous ces problèmes qui préoccupent pour le moment et qui dérangent énormément les populations de la province orientale en général et qui constituent là, je dirais, un obstacle au développement de cette province.
Mais ça va être ma dernière question et on va se quitter là-dessus. Lorsqu'il y a des coupures d'électricité, il y a des conséquences, notamment des appareils électroménagers qui tombent en panne. C'est, ma foi, la SNEL n'avise toujours pas quand il y a des coupures. Est-ce qu'il n'y a pas moyen dans votre politique au niveau commercial et marketing de prendre l'habitude d'aviser au préalable pour que les gens prennent des précautions ou débranchent leurs appareils avant que ça ne soit coupé? Parce qu'il y a des manques à gagner chez les clients.
Tout à fait, tout à fait. Je crois que ce que vous dites là est très pertinent. Ce sont là les dispositions avec la direction provinciale que nous avons examinées. Vous savez, à l'état actuel de nos installations, tout n'est pas encore au point. Même au niveau de la production, et je crois que vous êtes au courant, le matériel qui est arrivé aujourd'hui et qui a été dédouané au niveau du port de l'Onatra, ça concerne la deuxième machine au niveau de la production et les équipes sont en place pour essayer de tout faire, de mettre cette deuxième machine, de la rendre opérationnelle. Vous savez, pour le moment, nous n'avons qu'une seule machine. Et vous savez, avec une seule machine, quand il y a un problème, il est difficile d'arrêter la machine et de rétablir les choses rapidement sans couper les courants. Et c'est ça, ça nous dérange. Toutefois, le problème que nous avons au niveau de la production, d'ici peu, avec les équipes qui sont sur place, ça va être résolu. Et le directeur provincial prend des dispositions au niveau des réseaux de distribution, puisque les grands problèmes que nous avons, c'est à ce niveau-là. Les câbles sont vétustes, comme il vous a été dit, mais nous essayons de faire de notre mieux avec le moyen dont nous disposons, pour que progressivement on arrive quand même à résoudre ce problème-là. Toutefois, avant qu'on arrive à stabiliser la situation, je crois que ce que vous avez dit c'est important et ça aussi c'est à l'examen au niveau de la direction provinciale, il prendra des dispositions pour essayer de prévenir, puisqu'il y a de ces coupures-là et qu'on ne sait rien faire compte tenu des surcharges, il faut absolument qu'on arrête. Mais nous avions même parlé de ce que nous appelons en termes techniques le bureau centrale de coordination, c'est ce qu'on appelle le dispatching. Le directeur provincial est en train de prendre des dispositions avec les moyens de communication dont il dispose pour prévenir et essayer d'intervenir le plus rapidement possible dans un coin éloigné quand il y a une coupure d'électricité. Et ils vont le faire avec les moyens de bord pour le moment, et petit à petit, avec l'accord et l'appui de la direction générale, un bureau de coordination sera établi au niveau de la ville de Kisangani pour prévenir l'éventuelle coupure.
Ok, bien merci monsieur le directeur commercial d'avoir répondu à ces questions. Les auditeurs, les habitants attendent toutes ces promesses, parce que Mélie John de Routourou, qui est revenu à la charge, qui s'adressait à monsieur le directeur à disant qu'il envoie parfois des gens travailler sur le terrain, mais lui, directeur, ne sait pas ce qui se passe sur le terrain pendant le travail. Selon Mélie John de Routourou, ces gens utilisent parfois les anciens câbles au lieu d'installer les nouveaux câbles. Tout ça parce qu'il n'y a pas de suivi pendant l'exécution du travail. Mélie John croit qu'il est difficile de croire aux paroles des directeurs. Il faut voir l'action pour être sûr. Donc, ils attendent, on peut dire, wait and see. Monsieur le directeur commercial et monsieur le directeur provincial de la SNEL Kisangani, merci beaucoup d'avoir participé à ce magazine. On se dit au revoir et bonne chance pour les travaux de réhabilitation du courant à Kabondo, à Kisangani.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Au revoir. Le dernier sujet de ce magazine, comment sauver sa bouche et garantir ainsi d'avoir toutes les fonctions buccales de sa bouche, eh bien il faut bien la soigner. Soins hygiène bucco-dentaire, c'est cela dont nous parlons tout de suite. Nous allons en parler tout à l'heure avec un spécialiste, je veux dire. C'est un chirurgien dentiste qui vient de très loin, de la Revue démocratique du Congo. On fait un premier tour d'horizon avec Marcel Ngombo Mbala. Marcel, bonjour.
Bonjour, Alfred.
Est-ce que, pour commencer, bon, on ne fait pas la morale, mais une question, est-ce que beaucoup de gens prennent la peine de se brosser les dents le matin?
C'est-à-dire, pour la plupart des personnes, se brosser les dents paraît souvent comme de la routine, quelque chose d'habituel. Et il est fréquent de rencontrer des enfants, tout comme des adultes, qui se nettoient les dents de manière tout à fait expéditive. Alors qu'il est important de les nettoyer à fond, surtout après chaque repas, car ce sont le reste d'aliments qui traînent dessus, qui sont à la base des maladies des dents et des gencives. La gencive est en fait ces tissus qui entourent la dent et qui recouvrent l'os de la mâchoire.
Vous êtes médecin ou pas?
Bon, j'ai pris des informations pour les dentistes.
D'accord. Alors, pour bien les nettoyer, il faut une bonne brosse, une dentifrice, une pâte dentifrice au fluor. Est-ce qu'on pourrait dire, Marcel Dombo, que dans les centres urbains, les familles n'ont pas assez de problèmes pour en disposer?
En tout cas, à moins que l'on n'y attache pas une importance capitale. D'autant plus que la brosse à dents, comme les dentifrices, se vendent à des prix abordables, surtout à Kinshasa, comme le soulignent ces dames que je vous propose de suivre.
Na sukola mine na nga deux fois par jour na tongo so na lamuki na pokwa avana lala
tongo bosa ngo bosa ndeni
na brosse na dentifrice so na zui dentifrice na tien na brosse na zo ata mususu ba 5 minutes 7 minutes ya ko brosse mine na nga soki sili na rinse munoko na nga na mai na sopi mai wana na sukoli brosse na nga malamu na zongi sinanda
par exemple mokolo wana to supposer que brosse zate dentifrice zate o sala ndeni
en tout cas vraiment il faut na ça le nécessaire pour dentifrice brosse et comment on a 50 francs. Dentifrice, c'est payé à 50 francs. Donc, il faut savoir qu'il est nécessaire, ce qui tombe sous ses courbes, et boucani, au courrier, ça m'a dit, chose en bon, on a déçu 50 francs au sombi brosse.
Grâce à la mine, on a eu, la tombe sur la mouki, après avoir mangé, on a soukoué sous mine, parce que là, on a pris ma mine.
Depuis quand on a pris ma mine?
Bon, quand la mine était tout au bouquin, hein.
Tout supposé, alors, dentifrice, c'est zate brosse, puis zate au salani.
Pour s'il faut, il y a la carte, Faut être en haut 10 francs pour en payer son ami ou bien.
Marcel, on vient de les entendre. Ces personnes ont parlé de comment ils soignent leur hygiène bucco-dentaire. Et l'une d'elles qui se propose même d'utiliser le bicarbonate en cas de manque évident de dentifrice.
Cela n'est pas mal du tout, hein, car c'est bien conseillé en cas de manque de dentifrice. Donc on peut se nettoyer les dents avec du sel ordinaire ou un mélange par parties égales du sel et du bicarbonate de soude. De même que lorsqu'on manque de brosse à dents, on peut utiliser un bâtonnet propre en mâchant une extrémité pour en faire une sorte de balai.
Mais Marcel, alors, on observe ça c'est très souvent, il y a beaucoup de gens qui recourent aux pratiques traditionnelles pour se faire soigner lorsqu'ils ont des maux des dents? Est-ce que les pratiques traditionnelles sont efficaces pour garantir une hygiène bucco-dentaire?
Il est vrai que beaucoup de personnes souffrant de maux des dents recourent au traitement du genre infusion des plantes ou autres pratiques traditionnelles pour éviter surtout une extraction dentaire. Nous avons pu rencontrer un de ces praticiens qui nous parle de sa méthode. On l'écoute.
Na kolo ba boye ndet nga na so na carte dentaire kolo ba na mona kana no muntu o ya souffrir tant ko ya na yidi ke non min na yo je souffre pour na kaboye kaneti na moni mutaye fo na contrôler d'abord min na e na tel min na soki min na déjà kotoboka na yidi déjà ke min na ngeza kotoboka boye eza na biloko o yo maltraiter min wana il faut siko na sala makasi ko tena di misa biloko wana présence sa yimo ko moni ke biloko wuti na kati ya min o ya mo na kata 3 séances ya traitement o ya ko landa pana ngai. Ce qui a lundi traitement il y a 3 séances wana a vraiment on a résisté bien à nzoto aéro.
Alors traitement ouais consiste à vraiment la
traitement la ndenge zawana tant on a sombi la kisi na ngala tiwana na kosoma makala avant wana azomona ndenge ngana sali so ce kisi na ngai na zwaka na zana mwa mabende na ngana chaka na kati ya moto après na ngoko bimisa mabende na moto na tiwana na table on ngana sali laka na kozwa kisi na ngana na tiwana mabende wana eza mwa kopal on ngana kokanga kiswana poye afungoli nga munoko ne nakati ya kopalwana na tang wana ne akomona biloko o ezo ko sale passe nakati ya kopalwana elongana kata munoko ne ekoi nakati ya kopalwana ezali ne wana.
Voilà, un praticien de la médecine traditionnelle, docteur Moussa Dihi, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi ce qui vient d'expliquer. Oui. Quelle réaction avez-vous par rapport à ça?
Ce sont des énormités, des erreurs graves, parce que ce sont questions de choses qui peuvent amener facilement à la mort. À Kinshasa, dans beaucoup de formations, l'hôpital Saint-Joseph, l'église universitaire, l'hôpital Mamayemo, le Kankokolo, beaucoup de malades meurent à cause de ça. Au fait, les maladies dentaires sont une urgence sanitaire en République démocratique du Congo, comme ailleurs. Et d'ailleurs, d'après les statistiques internationales, la carie dentaire, par exemple, est le quatrième fléau du monde après les maladies cardiovasculaires et le sida.
Donc vous voulez déconseiller aux gens de recourir aux traditionnels
praticiens? Totalement, ce sont des choses assez graves.
On va revenir à vous tout à l'heure, avec force détails. Voilà, Marcel, voilà, c'est ces traditionnels praticiens qui expliquent un peu comment ils procèdent. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui s'est fait soigner grâce à ces techniques?
Nous avons pu en effet rencontrer un des patients qui a été soigné de la sorte. Je vous laisse plutôt juger de vous-même son témoignage.
Premièrement, tant que la santé est déjà la douleur, par conséquent, on a utilisé la cassassaf, la pelouse, la méca qui m'a dit que c'est ma cassassaf, au tiango, la maille, au toki, si ango, ma cassassaf, au tiango, la maille, au toki, au zimana, au tapas, les autres, aux 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 autres, j'aime moi na venir à Bisso et à traiter ces mots que azoa kisma sans ça na ma foot en mille à sanglisser à thé na ma à chauffer nini à chauffer en haut à chauffer en dalle moi en moto à utiliser ce mille lingana na tema ma foot en mille et misa mille lingana sans ça kisma ma foot en mille pour eza mille lingana ma casse moi chaleur en tant que côté en mille banyan bazo bim tant à traiter n'a y na zone d'a la santé moi calme et ça qui pendant na tant on a calme et pena ma casse et ça qui mette ma Niamasi, balé de l'élire l'inou, et comment d'ailleurs qu'au bout, quand on est arrivé, que presque partie, une grande partie à l'île et l'onwaki. Bon, l'île un peu qui vend en calme, mais est arrivé certain temps, l'île sous la souka, l'île la souka, et on est banni en menace. Donc, on a utilisé la prisonnière, la kissi nuance, attends, on a contacté son homme, toi, traitant, on a traitant à l'île en 4-4, en tout cas, et Simba était. Et Simba qui soutient, il faut consulter le médecin. On a vérifié, on a dit qu'il était, normalement, il faut être long, on pose un calme.
Voilà, docteur, encore un commentaire sur.
Oui, c'est ça. Vous savez, la carie dentaire, il faut commencer par comprendre ce que la carie dentaire.
Oui.
La carie dentaire, c'est une maladie post-éruptive de la dent. Elle est provoquée par un problème d'hygiène. La bouche étant le milieu le plus pollué de l'organisme humain, lorsqu'on y ingère régulièrement, on y mange, on y boit trop sucré et sans hygiène, sans un brossage correct qui vient, il se forme ce qu'on appelle la plaque bactérienne dentaire, qui ingère le sucre et le transforme en acide. Lequel acide essaye de provoquer un trou dans la dent. détruit l'émail, détruit la dentine et ensuite va atteindre la partie vitale de la dent qui est la pupe, avec les conséquences symptomatiques des douleurs intenses. Face au problème de la douleur, beaucoup de gens recourent soit à l'automédication, ils prennent des antalgiques, des anti-inflammatoires, parfois abusivement. Et aussi, ils vont chez les tradipraticiens, ils consomment leur décoction et que sais-je encore. La plupart de ces produits ayant des propriétés anti-inflammatoires. Comme vous savez, une pépite étant une inflammation. Une inflammation, une réaction de défense de l'organisme. Lorsque vous bloquez l'inflammation, c'est-à-dire vous empêchez à l'organisme de se défendre. Imaginez la suite. Souvent, ça se complique par des abcès et ainsi de suite. Je déconseille catégoriquement aux gens de le faire. Lorsqu'ils vont chez le tradipraticien, on met les décoctions. Ça nécrose, parfois ce sont des produits qui ont des propriétés nécrosantes.
C'est-à-dire?
Ça détruit la partie vitale de la dent. Et c'est cette bouillie-là de la partie vitale de la dent qui est extirpée dehors. Et on parle qu'on a sorti les nyamas. C'est faux, il n'y a pas de nyamas. S'il s'agit de la pulpe nécrosée qui se retrouve dehors. Voilà, mais ça ne résout pas le problème parce que la cavitation carieuse demeure et la bouche toujours polluée. Les micro-organismes viennent s'y mettre, s'y abriter, les sucres reviennent et ça se produit, se reproduit. Et déjà avec la consommation des anti-inflammatoires qu'on a eu, la défense de l'organisme est déjà affaiblie, ça entraîne des complications, vous avez un abcès et parfois vous avez toute la face gonflée et beaucoup de gens meurent à cause de ça. Le mieux c'est de faire, lorsque vous avez une douleur dentaire, vous avez une carie, il faut consulter le chirurgien dentiste qui peut commencer des soins initiaux. Quand le tout est assez grave, il peut faire un traitement radical, la dévitalisation, c'est-à-dire qu'il va extirper la partie vitale de la dent et il bouche ce trou-là par un matériel biocompatible et il refait l'anatomie de la dent et vous vous remettez en fonction.
Docteur Jean Bosco Moussadi, vous venez du Sankourou.
Oui.
Au Sankourou, c'est pratiquement dans le centre de la République démocratique du Congo. Dans tous ces milieux ruraux, comme on peut le dire, intérieurs, comme on dit souvent, un chirurgien dentiste, qu'est-ce qu'il fait là-bas?
Au fait, il faut noter que nous venons d'arriver au Sankourou avec notre projet il y a quelques mois seulement.
C'est quoi votre projet?
Le projet santé bucco-dentaire du Sankourou est un projet initié par les diocèses de Tchoumbé, l'église catholique. Et nous sommes en train d'en faire d'installation pour le moment. Nous sommes en train de monter l'église dentaire à Lodja et prochainement à Katakokombe et à Tchoumbé. Il faut dire que le district de Sankourou a une population d'au moins 1 700 000 habitants. Avec 6 territoires, il n'y a aucun chirurgien dentiste. Plus de 30 ans, il n'y a jamais eu de chirurgien dentiste. Quelques bricoleurs infirmiers qui faisaient quelque chose par rapport à ça et l'état des praticiens. Lorsque les gens ont des problèmes de santé bucco-dentaire, ils vont chez les tradipraticiens parce qu'ils n'ont pas quelqu'un pour les consulter. C'est ainsi que l'Église venait de mettre sur pied ce projet-là. Il y a encore d'autres résurgences de maladies bucco-dentaires qui sont associées à l'infection du sida. Vous n'êtes pas sans savoir que Lodja constitue la deuxième ville du pays du point de vue de l'incident du sida après Lubumbashi, où pratiquement il n'y a même pas un projet efficace de sensibilisation par rapport à cette maladie. Et les lésions initiales, les manifestations initiales du sida se trouvent dans la bouche. Vous avez les cas des candidoses orales, des gingivites, des parodontopathies qui règnent là-bas. Alors il faut la prise en charge. Il faut laisser toute cette pathologie opportuniste liée à HIV, à la candidose orale, les parodontites et tout ça. Et nous sommes là en train de commencer quelque chose. La tâche est très grande. Vous voyez, nous sommes seuls pour 6 territoires avec 1 million d'habitants. D'ailleurs, nous fonctionnons avec quelques moyens de bord. Nous sommes en train de nous battre pour arriver à avoir tout le nécessaire. Nous avons le matériel de qualité qui est là-bas. Encore, il faut avoir les consommables parce qu'il faut pratiquement offrir les soins gratuitement à la population.
Okay.
Parce que la population est très populisée et elle sort de la guerre.
Une question d'un auditeur de Goma. Pourquoi certaines personnes, même si elles brossent les dents régulièrement, les sangs continuent à couler, les autres, même si elles brossent à tout moment, ils ont une mauvaise haleine? Que faire pour éviter cette mauvaise haleine et comment faire pour garder une bonne haleine?
Au fait, il faut recourir souvent au chirurgien dentiste. Bref, je veux dire ceci, il s'agit de la prévention. Chaque personne humaine normale doit au moins brosser les dents 3 fois par jour, le matin, à midi, le soir et après chaque repas. Et vous savez, à part ça, on doit agir sur l'alimentation. Consommer pas trop de sucreries entre le repas et au cours de la journée. Même quand on en a consommé, il faut bien nettoyer la bouche. Le problème de la laine fétide qui rencontre beaucoup de patients est lié à la présence de poches parodontales, c'est-à-dire des lésions des tissus de soutien de la dent qui s'y trouvent. Alors, pour ce faire, il faut aller chez le chirurgien dentiste. Le chirurgien dentiste va procéder à l'élimination de tartre, va procéder au curettage de poches parodontales où se trouvent, qui sont des niches de microbes qui se pétrifient dans la laine fétide. Le problème de la laine fétide aussi peut provenir de manière des plus profonds, c'est-à-dire un problème au niveau de l'estomac, un problème d'une pathologie néoplasique et tout ça au niveau de l'estomac. Et là, pour le résoudre, nous devons le faire en collaboration avec le médecin interniste.
Bien, on a beaucoup de choses à se dire par rapport à ça, mais pour l'instant, on va se dire au revoir. Merci d'être là. On va continuer à enregistrer d'autres choses hein, par rapport à la question qui est importante. Merci d'être venu du Sankourou pour venir parler de ça.
Je vous remercie.
Merci beaucoup, docteur. Au Capierson, c'est terminé pour aujourd'hui. Toute l'équipe se réjouit du fait que vous avez suivi attentivement le magazine et vous donne rendez-vous demain, 9h02, heure de Kinshasa. Walter Moulandi, Magrindi était au micro.